Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous?
Aristophane, comique politique.
Ah, la culture. Léja, c'est chanter, la culture. La culture de la vigne, le vin, la culture des abeilles, le miel.
Non. La vôtre, celle des arts.
Ah, vous voulez parler du théâtre, de la musique et de la danse, qui sont inséparables. Eh bien, vous savez déjà que je ne suis pas un auteur triste, pas un auteur tragique. Je n'aime pas le sang, les larmes, les meurtres passionnels ou politiques. Je n'aime pas les titillations mentales des cogito-penseurs.
Nous sommes à la fin du 5e siècle avant notre ère. C'est le temps de Socrate et des cogito-penseurs, dit Aristophane, peu convaincu. Aristophane, en effet, se demande où sont passés les hommes d'autrefois, de Marathon, de Salamine, les paysans frugaux de l'antique Attique. Un grand spécialiste, l'américain Eric Segal, vous savez, l'auteur de Love Story, oui, observe qu'Aristophane aime beaucoup les vieux gaillards qui sont plus malins que leurs idiots de fils. Cependant, on ne peut pas faire revenir le passé. Autant rire de ce qui est là, de ceux qui sont là et qui ne sont évidemment pas ce qu'ils prétendent être. La cible préférée d'Aristophane, ce sont les démagogues qui aspirent à conduire les autres. En fait, un marchand de boudin pourrait aussi bien faire l'affaire. La confection du boudin et l'art du discours électoral, n'est-ce pas la même chose? Un autre grand spécialiste de l'hellénisme, un Lyonnais, Édouard Herriot, a parfaitement traduit Aristophane d'une phrase. La politique, c'est comme l'andouillette, ça doit sentir un peu la merde. Mais à force de citer des vedettes du temps présent, Herriot, Éric Segal, on pourrait croire que les Grecs et nous, c'est du pareil au même. Ce n'est pas parce qu'Aristophane a commis le prodige de les faire rire de tout, de leur dieu comme de leur maître, que le rire des Grecs était pour autant semblable au nôtre.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Pierre Judet de Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Éminent helléniste, encore mieux qu'Herriot, grand traducteur d'Eschyle et puis aussi d'Aristophane. Vous avez traduit une des 11 pièces conservées d'Aristophane, les grenouilles. Alors avec vous, il y a de grandes questions qui sont toujours posées. Les tragédies grecques sont-elles tragiques? En quoi le comique grec est semblable ou différent d'une autre? Je voudrais que vous nous racontiez d'abord comment ça se passait, le théâtre. Est-ce que c'était la même chose à Athènes, à la fin du 5e siècle, pour la tragédie et la comédie, par exemple?
Ben oui, parce que d'une certaine manière, la comédie, qui est un art plus récent que la tragédie, même s'il y avait des jeux théâtraux, des cérémonies avec des injures, des rires, la comédie est arrivée comme forme dans les habits de la tragédie, dans le même bâtiment, ce grand théâtre qui a été construit donc au flanc de l'Acropole, bon, pas exactement celui qu'on voit, il avait une autre architecture, avec des concours. Donc où il fallait donc les auteurs comiques rivaliser entre eux comme les auteurs tragiques, tout ça lors de très grandes cérémonies, hein, les grandes Dionysies, aussi les Lénéennes, qui étaient des festivals magnifiques, grandioses, et surtout avec la comédie a repris la forme de la tragédie, avec un chœur plus important, il y avait plus de 20 personnes, avec des acteurs, avec un langage très très élaboré, une métrique, donc des rythmes extrêmement complexes, une langue savante, même s'il y avait des belles obscénités au milieu des phrases. Je veux dire, c'était un art savant, mais savant et populaire, puisque à Athènes, c'était absolument pas contradictoire.
Alors, vous parlez des chœurs. On n'a pas les mêmes moyens que la cité grecque. À qui il arrivait de payer les places aux citoyens? Les chœurs qu'on va vous proposer, reconstitués par Radio France dans les années 60, c'est pourtant une coproduction de France Musique plus France Culture. Il n'y a pas 25 personnes, il y avait dans les chœurs.
24.
Oui. On est à beaucoup moins. Nous sommes dans la pièce La paix d'Aristophane.
Salut. Quelle joie nous cause ton retour, ô très aimé.
L'amour de toi m'emporte et me pousse vers les champs.
C'est toi, ô désiré, qui fais notre profit.
Toi
qui nous vient en aide.
Que de douces jouissances avons-nous eues jadis, sous tes gracieux auspices.
Tu as été pour nous
le salut,
l'abondance,
le gâteau d'orge vert.
Reviens-nous, bien-aimé. Les vignes,
les figuiers,
toutes les plantes champêtres
te font un grand sourire.
Soyez indulgents, parce que voilà, oui. Vous avez un sourire moqueur,
non.
Pierre Judet de la Combe.
Je me permettrai pas.
Les adaptations d'Aristophane sont ce qu'elles sont. C'est pas facile de reconstituer le climat. Le théâtre se jouait, là, on est dans une période de trêve exceptionnelle pendant la vie d'Aristophane, dans une très longue guerre interminable entre Sparte et Athènes, avec la menace du conflit, du combat.
Oui, c'est-à-dire que là, donc une paix vient d'être signée, enfin une trêve, ou en fait une paix.
421.
Mais il y a eu, la guerre a commencé en 430 et a fini à la fin du 5e siècle. Donc Aristophane, pendant, il avait 15 ans quand ça a commencé, il a connu la guerre presque tout le temps. Enfin, les guerres, qu'on appelle les guerres du Péloponnèse. Et donc Athènes était toujours armée, en disette, etc. Mais même chose pour Sparte et les autres cités. C'est une civilisation de guerre, c'est ça qu'il faut voir. Donc c'était pas des pacifistes, les Grecs.
Mais lui... C'est pour ça qu'on l'a un peu repris en France pendant la guerre d'Algérie. On le voit comme un pacifiste qui ose, à certains moments, défendre les Spartiates avec qui on est en pleine guerre et accuser les chefs de guerre qui montent au pouvoir politique.
Et oui, parce que dans le chœur qu'on vient d'entendre, c'est un chœur de laboureurs, donc ce sont des gens qui veulent la paix. Et dans ce chœur, il y a des Athéniens, évidemment, mais il y a aussi des Spartiates, il y a des Béotiens, donc, et, qui doivent tous travailler ensemble pour sortir la paix d'un puits où Zeus l'a mise, parce que Zeus est furieux contre les... Zeus a quitté l'Olympe, et furieux contre les Athéniens et les Spartiates qui font la guerre tout le temps, et donc, pour les punir, il enfouit la paix. Donc là, ils doivent travailler ensuite avec des pelles, des pioches, et alors il faut imaginer... Alors d'abord, c'est vrai, par rapport au chœur, c'était la comédie grecque, c'était un spectacle flamboyant, énorme. Bon, l'équivalent qu'on aurait maintenant, c'est le théâtre du soleil, c'est-à-dire avec une richesse, une profusion, et c'était pas dit sur un ton comme ça un peu religieux, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus emporté, tout ça. Mais alors, c'est vrai qu'Aristophane n'arrête pas de défendre la paix, et ses ennemis, ce sont, alors d'une part, ceux qu'on appelle les démagogues, en fait, c'est la gauche, ce sont les démocrates qui, comme Périclès, etc., et surtout le Cléon, qui par ailleurs était des massacreurs, hein, donc enfin Cléon, et pour qui la démocratie et donc le pouvoir du peuple est lié à l'impérialisme. Donc il fallait agir, surtout il fallait dominer l'espace grec. Et Aristophane est contre cela. Donc ce qui est frappant, c'est que son théâtre, beaucoup plus qu'on ne le dit, c'est pas un théâtre de la cité, c'est un théâtre cosmopolitique. C'est-à-dire c'est l'ensemble des Grecs. Bon, il se moque des barbares évidemment, mais l'ensemble des Grecs devait travailler ensemble à faire la paix.
Cléon, c'est dans Les Cavaliers, une pièce un peu plus ancienne, 424 avant notre ère, le personnage de Paphlagon, qui est vraiment représenté, alors que c'est le chef élu des citoyens, comme un homme repoussant. C'est à se demander d'ailleurs, dit Aristophane, si on pourrait pas choisir plutôt un marchand d'étoupe, un marchand de moutons, un marchand escuire, ou alors carrément un marchand de boudin. Et on aurait alors un immense concours de démagogues face au peuple.
À toi la première manche, fricasseur de déchets, mais à moi la seconde.
Et à moi la belle, racleur de charogne.
Peuple, parais à ta fenêtre, viens nous départager.
Ne tarde pas, peuple, je t'en supplie.
Peuple chéri, je t'aime, moi.
Mais moi aussi, je t'aime. Mais comment te le prouver? Pas moyen de t'approcher. Peuple, je le regrette, mais tu as tout d'une fille à passion. Tu refoules les amants sérieux et tu t'envoies coup sur coup un bistrot, un maquignon et un écarisse.
Peuple juste, peuple clairvoyant, mets-nous à l'épreuve. Tu verras vite des deux le plus empressé à te servir.
Celui qui mérite le mieux ta confiance.
Si ce n'est pas moi...
Si je n'ai pas la préférence...
Conscient, long, tout vif.
Qu'on me passe au hachoir fin et cuit à feu doux, une heure, pas plus.
Qu'on taille ma peau en lanière.
Qu'on me serve très poivré à la sauce tomate avec un soupçon de fromage râpé.
Bon, un bon discours politique par deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et que les deux soient le plus près possible l'un de l'autre. Française, français, voire deux choses, un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé, j'ai un bon travail. On va s'arranger. Parce que normalement, il y en a tout le temps qui gaulent du pognon, on dit, il est parti avec la caisse. Normalement, on n'a pas le droit de piquer dans l'État. C'est écrit dans la constipation de 1958, on y soit qui manigance. Mais les mecs, tu penses, une fois qu'ils sont là, hein, on dit, ah bah, au lieu de mettre des crédits pour les écoles, ils en font pour les prisons, tu parles. Quand t'es ministre, il y a un truc que t'es sûr, c'est que tu retourneras pas à l'école. Hein.
On s'est dit avec Jacques Sigal, le réalisateur de La Marche de l'Histoire, que vous alliez trouver l'adaptation de la radio de 57. Elle était de 57, celle-ci un peu archéologique. Mmh. Et Coluche, ça vous plaît mieux pour rendre compte de l'esprit d'Aristophane?
Ah bah, je trouve qu'il y a, un rapport très net entre Coluche, qui est un très très grand comique, et Aristophane. C'est-à-dire que on voit bien dans le rire de Coluche, c'est-à-dire que et d'Aristophane, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on rit contre les gens. En grec, ça se dit katagelan, ça veut dire rire comme un oiseau de proie qui fait tomber l'adversaire. Donc on rit contre les gens qui sont vicieux, etc. Bon, et là, ce sont tous les démagogues, donc quels qu'ils soient, et le peuple lui-même, Demos, qui aime bien être flatté. D'ailleurs, il le dit dans la pièce. Moi, je prends toujours des flatteurs parce que j'en ai un, je les use les uns après les autres. Sauf qu'à la fin, il va te rajeunir, il va devenir vertueux. Et le vrai comique, c'est pas simplement ce rire sarcastique où on a une certitude, on dit on a le bien, la morale pour soi, et on attaque les gens. Bon, il y a de ça, effectivement. Mais c'est qu'on s'installe dans un univers de rire, et donc un univers où on est libre, on n'est pas tenu par les valeurs, par les normes. Et c'est ça qui est très grand chez Coluche, c'est pas un rire du ressentiment. C'est pas un rire simplement, disons, à partir d'une certitude, c'est un rire où tout peut être mis en jeu, tout change, tout est bouleversé, et on est libéré même des sentiments qu'on peut avoir, même des censures. Donc il n'y a aucune censure chez Coluche, c'est ça qui fait sa grandeur.
Alors puisque on est parti sur Coluche, le mot « constitution » transformé en « constipation », alors ça... C'est typiquement Aristophane.
Ça, c'est de l'Aristophane. C'est-à-dire, on prend un mot sérieux et on change quelques lettres. Et donc, ça donne quelque chose là, qui est un peu plus bas que le niveau de la Constitution, je veux dire. Mais bon, mais ça veut dire que...
Ça veut dire que tout haut langage est un bas langage.
Alors voilà, ça veut dire qu'on peut tout prendre. Alors, la langue d'Aristophane n'était pas exactement celle de Coluche, parce qu'Aristophane faisait composer en vers, avec encore une fois des musiques extrêmement complexes. C'était une langue savante. Mais c'est-à-dire qu'on peut faire dire au langage le plus élaboré, celui de la tragédie, celui de la politique, celui de la science, avec dans les nuées de la philosophie, avec Socrate, on peut faire dire l'inverse de ce que ce langage prétend dire. Oui. Ce langage prétend quitter le monde des besoins, des pulsions, pour nous emmener, nous libérer par la haute culture ou les normes. Et Aristophane dit non, c'est pas comme ça. Ceux qui ont posé ces normes, cette culture, ce grand langage, en fait, ce sont des êtres de pulsions comme nous tous.
Le bas langage, il faut l'inventer pour qu'il obéisse au ressort du comique. Serge Valetti, qui tente une traduction d'Aristophane, c'est un auteur et metteur en scène marseillais, édition de La Talente, dit... Les traducteurs d'Aristophane, ils connaissent en général très bien le grec, ça doit être votre cas, Pierre Judel Lacombe, un peu le théâtre.
Enfin, oui, aussi. Ouais.
Pas du tout le comique. Alors comment, je sais pas, le vocabulaire sexuel, peut-on le traduire de façon comique? Est-ce qu'il faut mettre bout à bout des bites, des aubes?
Non, parce que on peut aimer. Moi, j'étais aussi nourri, pas seulement par Platon, Aristote, mais aussi par Santonio, je veux dire. Et Rabelais. Donc ça dépend de la culture de chacun, de ce qu'on a. Mais Coluche, évidemment, qui nous a accompagnés tous pendant tant d'années. C'est pas grossier. Enfin, ça peut l'être parfois. Vous avez au milieu d'un vers, construit exactement comme un vers tragique, vous avez « je pète » ou « je chie », etc. Ça peut arriver. Bon. Mais le vocabulaire, disons, strictement sexuel, en grec, est plutôt pauvre, c'est plutôt dénotatif, on va dire, pénis, péos, etc. Alors qu'en français, avec Rabelais, bon, etc., ça s'est multiplié. C'est pas tellement ça, c'est-à-dire que ce sont plutôt des doubles entendres. Bon, par exemple, dans Les Grenouilles, il y a Euripide qui se vante d'avoir été sur le bateau lors de... Bon, c'est comme ça que... On disait peut-être d'un homosexuel passif bien connu, Clisthène. Alors il dit qu'il est monté sur le pont. Alors monté sur le pont, on voit en grec, c'est sur Clisthène qu'il est monté. Ensuite, il dit qu'il a coulé 12 navires pendant une bataille navale. Et 12, c'est le nombre de techniques érotiques connues. Et donc, c'est pas couler, c'est mettre par le fond avec toutes les allusions. Donc c'est-à-dire que toutes les phrases, même quand il n'y a pas d'obscénité directe, ce qui arrive dans Aristophane... Quasiment tous les vers ont un sens obscène. C'est-à-dire que si on sait l'entendre. Donc c'est cet écart entre un langage qui semble héroïque, normal, enfin normal dans la poésie, et ce que ça dit aussi.
Donc c'est une forgerie verbale, tout en finesse. On essaye un autre rapprochement après celui avec Coluche.
Voici la ronde des jurons qui chantent éclairs, qui danseront. Quand les Gaulois de bonne aloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par ci, jurant à langue raccourcie, comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Tous les morbleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu que les jarnies bleues et les pâles sont bleus. Tous les cristis, les ventres saints gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et pois, diantres, fichtres et foutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnidieux et les passes que Dieu.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Pierre Judet de Lacombe, traducteur d'Aristophane, quand c'est Coluche, sourire jubilatoire, quand c'est Brassens, sourire bienveillant.
Non, mais j'adore absolument. Donc ça, c'est... Alors c'est un peu différent parce qu'on voit tous ces jurons, ça vient de la peur du blasphème. C'est-à-dire pas le sang bleu, etc. Donc faut, et alors qu'en Grèce, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on est dans un tout autre contexte religieux et on peut dire vraiment ce qu'on veut sur les dieux, parce que les dieux, ce ne sont pas des êtres transcendants et purs qu'il ne faudrait pas injurier ou offenser. Les dieux, ils gèrent le monde. Alors, ils peuvent se faire avoir, parce qu'on passe des contrats avec les dieux. Et donc, il n'y a pas cette espèce de pression qu'il y a eu en français, et qui, pression telle de la religion, qui a, d'une certaine manière, libéré le vocabulaire par des échappées.
Oui, mais voilà. Brassens, il s'adressait aussi aux femmes, il avait un public féminin. Je vous rappelle ce que disait le vieux philosophe des Lumières, Fontenelle, à propos d'Aristophane. Il disait, heureusement, au temps d'Aristophane, les femmes ne devaient pas aller au théâtre, elles n'auraient pas du tout apprécié la brutalité du vocabulaire d'Aristophane parce qu'elles étaient, c'est le mot de Fontenelle, resserrées.
Alors, elles étaient resserrées, les femmes n'avaient, le droit des femmes était très 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 limité, la condition des femmes était vraiment horrible, ça comme on le sait, mais alors il est possible qu'elles aient été au théâtre, ça c'est débattu entre les spécialistes, moi je pense qu'effectivement elles étaient spectatrices. Mais alors ce qui est frappant, c'est que justement Aristophane semble prendre la défense des femmes. Bon, dans plusieurs pièces, notamment Lysistrata, je veux dire celle qui dénoue l'armée, donc puisqu'elle décide. Mais alors justement, c'est encore une fois pas seulement les Athéniennes pendant la guerre du Péloponnèse contre Sparte, mais il y a aussi les Spartiates et les femmes des autres villes qui sont là sur la scène. Elles font la grève du sexe.
Alors on va entendre un extrait de Lysistrata. Nous sommes vers 510, oui, avant notre ère. La guerre se prolonge de plus en plus cruelle. Il y a un personnage principal. C'est une stratège implacable d'un côté et une tacticienne charmeuse. Elle va être interprétée par Rosie Vart dans notre adaptation radiophonique que vous écouterez avec indulgence.
Non, pas d'indulgence, c'est pas le problème.
Donc elle a un double aspect.
Oui, elle est à la fois, c'est une. Donc elle parle comme un homme, si on peut dire, comme un vrai stratège. Donc elle menace de châtier celles qui veulent quand même rejoindre leur mari, là en douce, tout ça. Et donc, bon, mais simplement, elle gagne, elle perçoit. Donc elle est plus virile que les Cléons et tout ça, et tous les chefs. Mal.
Quel est, cher Lysistrata, le motif pour lequel tu nous convoques, nous les femmes?
Voudriez-vous donc, si je peux trouver un moyen, me seconder pour mettre fin à la guerre?
Reparler de déesse, moi je veux bien. Dussé-je mettre au clou cette robe et en boire l'argent aujourd'hui même?
Et moi je suis prête, dussé-je ressembler à une barbue, à me fendre en deux sur toute ma longueur, et à donner la moitié de moi-même.
Je grimperais au sommet du Tégète si je devais y voir la paix.
Je vais parler. Il ne faut pas que l'affaire soit tenue secrète. Nous devons, ô femmes, si nous voulons réduire nos hommes à faire la paix, nous priver...
Mais de quoi? Explique.
Eh bien, nous devons... nous priver.
Je ne saurais le faire. Que la guerre aille son train.
Ni moi non plus, par Zeus, que la guerre aille son train.
C'est toi qui dis cela au barbu. Pourtant, tu viens de dire que tu étais prête à te fendre en deux sur toute ta longueur.
Et autre chose, ce que tu voudras.
Et si nous nous privons le plus possible de ce que tu dis, oh, puisse cela ne pas arriver. En aurait-on davantage de la paix pour cela?
Oui, bien plus, par les deux déesses. Car si nous nous tenions chez nous, fardés. Et si nous nous avancions recouvertes seulement de nos petites tuniques d'amorgos, épilées, si nous nous dérobions à nos maris au lieu de nous livrer quand ils sont brûlants de désir, ils feraient vite la trêve, je le sais bien.
Mais s'ils nous empoignent et nous entraînent de force dans la chambre,
il faut se prêter, mais de très mauvaise grâce. car on ne trouve pas de plaisir en ces choses-là quand elles se font par force. Sois sans crainte, ils en auront bien vite assez, car jamais un homme n'aura de plaisir s'il ne s'entend pas avec sa femme.
C'est une adaptation de Claude Roland-Manuel du début des années 60. J'imagine qu'à cette époque-là, on jouait un peu Aristophane, voyez, à la radio, avec deux arrière-pensées. C'est un signataire possible du manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie, et c'est un lecteur de Simone de Beauvoir, mais il n'est nullement féministe pour vous.
Ah non, parce que effectivement, c'est on peut trouver des messages féministes comme dans la Médé de Ripide, si on veut, mais je veux dire, c'était pas le point. Je crois que Nicole Leroux a interprété cette pièce de manière tout à fait intéressante, c'est-à-dire que pour Athènes était faite de citoyens et non pas de citoyennes. Donc on dit les Athéniens, on dit pas les Athéniennes, on dit les femmes. Et les femmes, elles peuvent être spartiates, enfin de partout. Et ce que fait Aristophane, donc avec cette grève du sexe, alors qui fait que les femmes apparaissent vraiment comme elles sont dans toutes les clichés machistes, enfin de la littérature grecque, elles sont fourbes, séductrices, etc. Il y a une scène quasi sadique où une femme séduit son mari et bon, il en peut plus, le pauvre. Je veux dire, mais c'est de montrer que voilà que la cité n'est pas la cité. C'est ça qui est important. La cité qui pense comme une institution mâle, virile, avec des valeurs de courage, etc., des règles. La cité a une base qui est simplement l'existence, à savoir il faut qu'il y ait non seulement le sexe, mais il faut qu'il y ait la procréation, il faut qu'il y ait les gens. Et c'est ça que, de certaine manière, défend Aristophane, comme dans La Paix, c'est un cœur de laboureur, ce sont les gens qui travaillent. Ça, c'est ce qu'il y a de plus universel, et c'est ça qu'il ne conteste pas. Et il ne fait pas l'éloge des paysans, qui sont par ailleurs aussi des abrutis dans ses pièces. Je veux dire, personne n'est bon chez Aristophane, mais les femmes qui prennent le pouvoir sur l'acropole montrent en fait ce qu'est la cité, c'est-à-dire c'est une construction qui est donc dont on exclut les femmes, mais il faut penser cette exclusion, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on exclut. Donc c'est d'une certaine manière, il oblige à se demander ce qu'est la citoyenneté. Et pour ça, il se moque autant des hommes qui sont pendant toute la pièce, ils n'ont qu'un argument. Pour le dire en grec, c'est estucamen, nous sommes en état érigé. Voilà, c'est ça. Donc ils sont en érection pendant toute la pièce, ils n'en peuvent plus, quoi. Donc à la fin, ils vont céder. Donc c'est assez simple.
Vous traduisez ça comment ? Bandé à craquer.
Je ne dirais pas bandé, non, parce que c'est un mot qui veut dire être droit. Voilà, nous sommes dressés, un truc comme ça, nous sommes en érection. Quoi. Là, je n'en pourrais pas. Bon, bah, passons. Mais...
Alors dites-moi, les démagogues peuvent être aisément remplacés par les femmes, quels que soient leurs défauts typiques et caricaturables. On ne peut pas remplacer, Euripide, vous êtes un traducteur d'Échine. On ne peut pas remplacer les grands maîtres à penser.
Non, c'est ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité de poètes, même si donc Aristophane critique férocement tous ses contemporains, ses collègues, et Euripide, bon, et Échille aussi, en fait, même s'il le fait revenir pour sauver la cité, soi-disant. Je veux dire, là, vous avez raison, c'est-à-dire que... Et pourquoi les poètes ? Alors, les poètes, c'est pas simplement qu'ils étaient censés éduquer le peuple, ça, on le faisait pas vraiment, mais c'est parce que les poètes, c'est la fête. Les poètes, c'est justement ce moment où, dans la tragédie comme dans la comédie, où on se dégage du réel, on construit un monde à part, un monde fantasmagorique, et encore une fois, le monde de la comédie est un monde extraordinaire. Je veux dire, donc vous avez imaginé un chœur fait avec les nuées qui viennent sur scène. Donc le monde, la cosmologie vient sur scène, l'univers vient sur scène. Donc les oiseaux, on fait une cité d'oiseaux, alors que les Athéniens pensaient qu'ils sont autochtones, nés de la terre, etc. Et là, on construit une cité d'oiseaux qui sont plus des barbares. Et on en fait rôtir quelques-uns quand même, parce qu'il faut bien vivre. Je veux dire, mais on est hors du réel. Et tous les poètes permettent cela. C'est-à-dire
les poètes, les philosophes, les grands tragédiens, ils se la pètent un peu. Euripide, c'est le fils d'une marchande de légumes. Il dit des trucs dont Aristophane se moque. Qui sait si la mort n'est pas la vie et si la vie n'est pas la mort ?
Alors ça, c'est une phrase tragique. Donc du coup, Euripide peut rester aux enfers, puisque pour lui, c'est pareil.
Et alors, le grand Socrate, vous parliez des nuées, donc c'est un cœur légèrement vaporeux, quand même, et auquel il ne faut pas se laisser prendre nécessairement. Nous sommes ici dans la version de 417 avant notre ère de la pièce, et j'ignore toujours qui est le traducteur, parce que dans les notices concernant les adaptations de Radio France, le nom n'est jamais cité.
Nous voici, nous sommes les nuées, source jamais tarie, les sœurs de la rosée, les nuées qui se reforment sans cesse, ondoyantes, échevelées.
Mais
Dissipons cette vapeur pluvieuse qui dérobe nos formes immortelles aux yeux des mortels. Salut, Socrate, pontife des subtils radotages.
De tous les sophistes à la mode, c'est à toi seul que nous prêtons l'oreille, car tu nous plais.
Pour ta démarche fière,
ton gros œil qui louche de côté,
ton entêtement méritoire à marcher pieds nus,
ta confiance en nous
et ton air suffisant.
Oh, la voix qu'elles ont, la musique du ciel.
C'est qu'elles en viennent, elles règnent seules là-haut. En ce moment, sans elles, le ciel est vide.
Vide ? Et Zeus ?
Tu veux rire, Zeus n'existe pas.
Alors dis-moi, Socrate, qui fait pleuvoir ?
Les nuées.
Jusqu'ici, moi, je croyais que la pluie, c'était Zeus qui pissait à travers un tamis.
Poète.
Mais alors la foudre ? C'est bien Zeus, quand même, qui lance sa foudre sur les parjures.
Pauvre simple, qui croise encore au compte de nourrice à ton âge. Mais si Zeus lançait la foudre sur les parjures, comment n'aurait-il pas réduit en cendres tous les chefs de gouvernement qui se sont succédés chez nous depuis 50 ans ? C'était pourtant de fameux parjures.
On a identifié Socrate, c'est pas moins que Henri Virelogeux. Pierre Gidet de la Combe.
Oui, mais alors là, c'est tout à fait, non, c'est vraiment drôle, quoi, parce que les nuées, donc, qui font le tonnerre, qui font la foudre, ça, c'est la théorie scientifique de l'époque, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est ce que disaient les Einstein, tous ceux qui font les physiciens de l'époque. Et donc, donc les dieux sont évacués. Mais alors, c'est là où il y a la force du théâtre, ces puissances, donc, de l'univers, qui font l'univers, qui font à travers l'air, qui est l'élément principal, ben, deviennent personnages de théâtre, deviennent visibilité, ça devient un cœur massif. Et ce cœur, donc au lieu que ce soit simplement des mots, des concepts, comme dans la science, ce sont des gens qui sont présents, donc des hommes déguisés en femmes, avec des nez, enfin tout à fait bizarre, quoi. Et en fait, elles vont se révéler être la comédie. Les nuées, c'est justement le fait qu'on se décolle du réel, on imite à travers les formes des nuages tous les vices, tous les vicieux, etc. Et finalement, la comédie qui est toujours du côté de l'ordre, d'une certaine manière, malgré le désordre de l'expression, elle est du côté du fait qu'il doit y avoir la vie bien réglée pour qu'on puisse vivre, qu'on puisse survivre, travailler, faire l'amour, s'enrichir, etc. Eh bien, ces nuées vont finalement punir Socrate. C'est ça qui, alors qu'elles ont été invoquées par lui comme des concepts, donc qui remplacent les dieux, et non en tant que présence physique, corporelle, scénique, bien ce sont elles qui vont finalement l'emporter.
Mais comment peut-on critiquer à ce point Euripide, Socrate, maintenant, comme un coupeur de cheveux en huit, qui tient des discours devant des jeunes gens bien nés et aux cheveux bien peignés? Comment est-ce qu'on peut critiquer les contemporains à ce point?
Parce que critiquer ne veut pas dire vouloir supprimer. Critique, ça veut dire qu'on rit des dieux, on rit des poètes, etc., parce que ce sont des institutions, si on peut dire, bien établies, très solides. Les dieux, c'est pas une question de foi. Il n'y a aucune foi chez les Grecs. Ils sont là, ils ont leur culte, etc. Bon, et Euripide, pareil. Et d'ailleurs, et Socrate, pareil. Et on verra, Platon va inviter Aristophane dans son banquet. Parce que donc, il y a quelque chose de commun entre tous ces artistes, c'est que, et ces scientifiques, on s'échappe du réel vulgaire tel qu'il est pour en construire un contre-réel, qu'il soit scientifique ou artistique. Et simplement, entre soi, ensuite, on se critique férocement, mais on sait qu'on va éliminer. Voilà, il y aura toujours la poésie. Et donc, dans la paix, il dit bien, avec la paix va arriver, enfin, la tragédie va reprendre le dessus.
De quoi rit-on en Grèce ? Avec qui rit-on ? Bien des points communs avec notre société, sauf qu'on ne rit pas avec, à l'horizon, des valeurs universalistes, la parité, la laïcité, etc. Merci à vous, Pierre Gidet de la Combe. Votre traduction des Grenouilles, c'est aux éditions des Belles Lettres. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Frédéric Martin, avec à la technique Jean-Philippe Jeanne.